Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on reprend nos droits de 18h à 20h comme tous les jours. Vous en avez l'habitude, restez bien avec nous tout au long de l'émission parce que là on va se régaler, encore beaucoup d'actu. Un grand match, la Coupe de France reprend ses droits aussi ce soir, donc on va se régaler pendant 2 heures en très bonne compagnie comme d'habitude avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ah Benoît,
ça va et vous monsieur le sélectionneur?
T'as passé une bonne soirée? Ouais, t'as analysé la liste.
Ah bravo.
Pareil.
Bah on l'a concocté ensemble hein, écoute.
Oui oui oui, non mais bon après c'est des fois
c'est toi qui décide, mais moi je suis en accord total avec ta liste.
Ouais ouais, non, ça m'a passé, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone. Pour expliquer.
T'as relancé la mode de la casquette.
Le pourquoi du comment.
Surtout, c'est incroyable.
Écoute, ouais, y en a un qui l'a bien connu, c'est Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Salut Jean-Mi.
Quoi, la casquette?
Ah bah oui, la mode de la casquette. La casquette pour les coachs.
Nous, on avait quoi?
Le béret.
Le bonnet, nous. Le béret béarnais.
Ouais. Bah écoute, il y en a un, il l'a pas.
Bonjour messieurs.
Bon.
Bonjour Jean-Michel.
Il y en a un, il l'a pas, le béret béarnais, il a autre chose, c'est
Steve. Et la casquette. Il a la casquette. L'homme a la casquette. Multicasquette.
Eh oui.
Proche du bonnet.
C'est vrai que Steve, il a une tête à casquette. C'est vrai.
Ah ouais.
Ouais.
J'ai surtout une tête de con.
Non, pas du tout.
Ça va pas, non?
Pas du tout,
Steve. On voulait pas.
On voulait pas le dire. Non, mais c'est la première minute, ça.
Non, mais Steve, non.
Il y en a qui portent mieux. Hey, toi, vrai. Jérôme, tu vois, la casquette, c'est pas trop ton délire, Jérôme.
T'as plus une tête à bonnet, toi, Jérôme, c'est vrai.
Ouais.
Qu'à casquette, ouais.
Bon, après,
ouais.
Je suis multifonction.
Il a surtout une tête qu'on retient pas, en fait.
Je suis multifonction. Ouais, ouais.
Tu vois, c'est un peu. Ouais. Tu l'as vu, tu dis putain, mais je l'ai vu ou pas? Peut-être tu l'oublies un petit peu.
Ah, c'est vrai, ouais. Ouais.
C'est vrai que quand tu le voyais jouer, tu t'en rappelais, c'est vrai.
Peut-être.
C'est vrai.
Quand je me balade, j'ai pas l'impression qu'on m'a oublié, mais bon, après, peut-être que.
Pas sur Paname. Que sur Paname, hein. Et que sur Paname. Et tu sors de votre rocade, là, votre périph, là.
Rocade. Ouais. On fera un tour ensemble, Stevie.
Magnifique Roten sans flamme ce soir.
En voiture sans permis.
Vous le savez, c'est votre émission préférée le lundi, du lundi au vendredi, de 18h à 20h. Et la semaine prochaine,
oui.
Une opération spéciale, avis de recherche. Si vous êtes un ancien professeur de Pascal Olmeta, une ancienne petite amie de Jean-Michel Larquet, un ancien coéquipier de Christophe Dugarry.
Qu'est-ce que c'est ça?
Ils ont marqué votre vie, vous avez marqué la leur, vous réservez vos places au 32-16. On organise les retrouvailles sur RMC la semaine prochaine, de lundi à vendredi, avis de recherche. N'hésitez pas.
Ils peuvent appeler dès maintenant. Hein.
Vous avez des comptes à régler avec Jérôme, Jean-Michel, Manu Petit, Christophe Dugarry. C'est le moment de le faire sur RMC. N'hésitez pas. Une ardoise impayée. Vous venez comme ça.
Oui.
Vous êtes contrôleur fiscal. Il vous manque quelques informations. Vous venez les chercher comme ça à partir de lundi. Rendez-vous donc dans Antenne sans flamme. Réservez vos places au 32-16. Hein. On attend vos témoignages. Ça a bien marché hier. Continuez de les laisser au 32-16 et sur le numéro WhatsApp 06 12 424 424. T'es confiant, Jérôme?
Ah bah, je suis confiant. Après, j'espère être content de retrouver les personnes.
Les personnes, il y aura plusieurs personnes.
Imagine, je suis pas content.
Bah là, ouais.
Comment ça se passe? Oui.
J'ai l'impression qu'il va y avoir un filtre à l'engagement au 32-16.
Ah non, non, filtre, y a pas, c'est le principe de RMC.
T'es sûr,
Stevie, je suis au courant de rien.
Bah rien.
Me concernant, je suis au courant de rien.
Et on a commencé à bosser.
Sur le reste,
sur le reste, tout.
Ah ben non, mais on est obligé de bosser, on bosse comme des chiens.
Actuellement, on cherche les professeurs de Jean-Michel, mais c'est pas facile. Hein. On galère un peu.
La RTBF.
Bah, on va voir. Écoute,
on va
changer de fusée d'épaule.
Paris, allô,
beaucoup
Paris.
Sur du répondeur.
Il répond pas. Bon, en tout cas, rendez-vous lundi prochain. Avis de recherche, on va se régaler. Ouais, à 19h.
Moi, j'ai eu des instituteurs et ça se voit. Il y en a. Ça sent
pas 500 ans.
Même s'ils sont plus là.
Ça, c'est bon, Jean-Michel. Excellent.
Ouais, c'est vrai.
À 19h, Roten se chauffe ce soir. Safonov Chevalier. Est-ce que la concurrence est terminée? Ça y est, le Russe a été installé. Il a fait les deux derniers matchs. Il a été bon à Strasbourg. Il a de nouveau stoppé un penalty. On en parlera avec vous, supporters parisiens, à 19h. À 18h45, allô Jérôme. Ce soir, c'est Marseille-Rennes, 8e de finale de la Coupe de France. Rod Fanny, ancien joueur des deux clubs qui a connu des crises à l'OM, sera avec nous. Il pourra nous parler de l'actualité de ces deux clubs. Et puis, soyez là surtout à 18h30 pour le procès du championnat saoudien et de son fonctionnement ridicule. On va tout vous expliquer. On a un procureur, mais deux avocats pour le championnat saoudien. Donc j'ai hâte d'assister à ce moment. On va se régaler à 18h30. Mais pour l'instant, il est 18h05 et tout de suite, De Zerbi doit prouver, Jérôme, qu'il n'est pas le maillon faible.
Vous allez regarder le maillon faible.
Ah, j'adore ça, candidats. En fait, s'il y a un joueur dans la surface et qu'on est quatre à le regarder, qu'il n'y en a pas un qui marque, c'est la faute de qui ? La faute du coach ? Non, c'est pas la faute du coach. Donc à un moment donné, il faut prendre les responsabilités.
Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas amis.
On voulait construire 3 ans avec un entraîneur puissant et qu'il pouvait incarner la leadership.
Ils ne se connaissent pas et pourtant ils partagent une même passion, la bagarre.
Corruption dans des championnats de merde.
Ils vont devoir jouer en équipe.
Quand je fais des causeries avec lui 45 minutes, tu vois un mec qui transpire, tu vois un mec qui parle avec son cœur. Quand je dis que c'est pour moi le coach idéal pour l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il a toutes ces qualités-là.
Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros.
De Zerbi, il est très touché par la situation actuelle. Il n'a qu'une envie, c'est de réussir chez nous et de renverser la tendance.
De quoi sont faits traditionnellement les œufs et les lapins cachés à Pâques dans le jardin?
Je suis presque prêt de parler français. Hein.
À chaque manche, l'un d'entre eux sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible.
Je ne suis pas prêt encore.
Huitième de finale de Coupe de France ce soir entre l'OM et Rennes, 21h10 sur RMC, match en direct du Stade Vélodrome. Marseille sous tension depuis une semaine, l'élimination en Ligue des Champions face à Bruges, le nul contre le Paris FC qui n'a rien arrangé. Rappelons les deux objectifs désormais sur la fin de saison marseillaise, la qualif pour la Ligue des Champions via le championnat. Et donc cette Coupe de France à aller chercher, c'est Mehdi Benatia qui l'avait dit à l'issue de la défaite à Bruges. Une défaite ce soir serait considérée comme un traumatisme. Hier, une réunion a été organisé entre le club et les responsables des différents groupes de supporters. Parlons-en avec Florent Germain qui est avec nous en direct de Marseille. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut les amis.
Alors Flo, tu nous as donné toutes ces infos. Union sacrée avec les supporters, mais obligation de passer et d'accéder au quart de finale ce soir.
Voilà, alors match de la dernière chance ou Union sacrée, on verra. Mais en tout cas, obligation de gagner parce que c'est le match et le résultat qui vont décider de l'ambiance en tribune. Les leaders de groupe, ils avaient à cœur d'effectuer ce rendez-vous. Ils étaient environ 5 membres par assaut de supporters qui donnent souvent le ton, vous le savez, en tribune à Marseille. On m'a décrit un échange plutôt calme. Ça a duré 1h30, 1h45 environ. Il n'y a pas eu de tension, pas d'insultes. Les représentants de l'OM, c'était quasiment tous les joueurs. Le staff, Roberto De Zerbi, les dirigeants, Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les joueurs qui ont pris la parole, Balerdi, Aubameyang, Kondogbia et Timothy Weah, qui a également dit un petit mot. Roberto De Zerbi, il a avoué qu'il vivait mal la situation, qu'il comprenait la colère des supporters. Et d'ailleurs, écoutez, juste avant en conf de presse, il nous avait confirmé saisir et comprendre l'amertume des fans de l'OM.
On est en tort.
Et quand on a fauté, il faut savoir se faire pardonner. C'est le cas de nombreux stades, mais pour le Vélodrome, c'est particulier. C'est comme un miroir. Quand tu donnes tout, tu reçois. Et si tu n'es pas bon, la fronde revient comme un boomerang. Il faudra être prêt, même s'il y a des sifflets qui font mal. On doit être costaud et faire face. C'est tout.
Voilà, donc une réunion qui a permis à l'OM d'avoir la conviction que le Vélodrome sera derrière son équipe, au moins dans le début de match. Il n'y aura a priori pas trop de banderoles, pas tant de sifflets que cela. On va vous encourager, mais effectivement, petit conseil à l'OM, mieux vaut gagner et éliminer Rennes ce soir.
Flo, on a quelques petites infos sur la compo ou pas encore ? C'est trop tôt ?
Bah écoute, non, c'est jamais trop tôt pour avoir des petites indiscrétions. Mais écoute, on sait que Jeffrey Delange sera dans le but puisque il a été annoncé au gardien remplaçant qu'il jouerait la Coupe de France. Aguerd est forfait, donc on se dirige vers une titularisation de, évidemment, Léo Balerdi aux côtés de Medina, de Pavard et probablement de Weah sur un côté. Timber et Heubier au milieu de terrain. Une forte probabilité qu'on voit Nouaneri, Greenwood et peut-être Peixão titulaire. Et en pointe, petit doute entre Guiri et Aubameyang.
Merci Flo, tu as été parfait. Marseille-Rennes, ce match est-il vital pour Roberto De Zerbi, 32-16, pour participer avec nous, Jérôme?
Plus que ça, parce que pour moi, ce match, on parle souvent de tournant. Alors des fois, c'est un peu tôt à cette période-là de l'année, mais là, c'est un vrai tournant dans la saison de l'Olympique de Marseille. Alors déjà, elle a pris un rôle catastrophique depuis plusieurs jours. Ce qui s'est passé en Ligue des Champions, on va pas revenir dessus, on en a déjà fait. Mais la claque reçue, c'est une énorme claque et il faut s'en remettre. Comme quoi, ils ont du mal à s'en remettre parce que le match contre le Paris FC, tu dois le gagner 10 fois.
Tu mènes 2-0.
Allez, 9 fois sur 10 quand tu t'es aussi supérieur à ton adversaire comme ça. Et que c'est aussi un coup d'arrêt pour les perspectives des objectifs du club de faire mieux que l'année dernière. Ou aussi bien. Donc la deuxième place, elle s'échappe de plus en plus. La première, j'en parle même pas. Mais c'est surtout qu'il faut regarder dans le rétro, parce que dans le rétro, tu as une équipe qui est à égalité aujourd'hui. Et même si on a l'impression que le cinquième du championnat est un peu largué, ils sont à 7 points, tout va vite dans ce championnat, parce qu'il y a des équipes qui sont capables, et on l'a vu, de faire des séries. Et puis surtout, à Marseille, c'est Manu qui dit ça souvent, le Mistral n'est jamais très loin. Mais là, c'est plus qu'un Mistral, du moins. Là, c'est un ouragan.
Et même quatrième, c'est Cata, Jérôme.
Non, mais c'est un ouragan. Et c'est pour ça que ce match de ce soir, il est crucial pour déjà l'entraîneur. Parce que pour moi, il a perdu beaucoup de crédit sur les dernières semaines et surtout sur le début de l'année, avec autant de changements, nous vendre ta façon de jouer et de voir qu'il n'y a pas forcément de répondants chez les joueurs, et surtout encore moins de progression sur tes joueurs individuellement, mais aussi collectivement, que des compos. Il y en a eu tout, ça s'est jamais ressemblé, les compos
match.
D'un match à un
compos
autre.
Différent à
et encore ce soir, parce que par la force des choses, et c'est pas moi qui décide, mais c'est eux, les magiciens qui créent cette équipe, ils vont te dire que c'est normal d'avoir 5 nouveaux joueurs au mercato d'hiver, comme c'était normal d'avoir 13 nouveaux joueurs au mercato d'été, parce que ils ont renforcé l'équipe, parce que c'est normal, la stabilité, que nous, on est là juste pour faire en sorte, dans les critiques, de foutre un petit bordel dans le vestiaire, parce que c'est ce qui a été dit hein, plein de fois, comme quoi nous on n'a pas besoin des critiques des médias ou nos critiques et moi mes critiques perso aussi pour foutre le bordel dans le vestiaire, parce que on voit que les joueurs ils s'entendent pas, les joueurs ils se bagarrent, les joueurs ils s'envoient chier, après t'as l'entraîneur qui les prend, on en a parlé hier, qui les prend un peu en faisant de la câlinothérapie, et puis qui les dégage comme Murillo par exemple.
Puis nous, ça n'a jamais été notre but,
et d'autres. Non, mais bah non. Nous c'est pas le but. Nous, on est là matchs, juste pour analyser. Et je suis désolé encore de dire, et même si ça déplaît aux gens qui sont en place à Marseille ou ceux qui sont dans le club de Marseille, parce que tu sais, t'as des fonctions dans les clubs aujourd'hui, t'as l'impression que les mecs, parce qu'ils ont des fonctions importantes dans les clubs, qui connaissent mieux le football que les mecs qui l'ont pratiqué pendant 30 ou 40 ans, tu vois. Mais ils connaissent mieux le football que toi. Donc eux, ils t'ont expliqué il y a quelques mois que c'était normal de changer autant une équipe qui a fait finir deuxième l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, en effet, eh ben, de match après match, on voit qu'il y a des fluctuations dans les performances. Donc c'est des fois 3-4 matchs très bien. Et ça a été le cas, et on l'a dit. Et puis après, il y a une baisse de régime, une grosse, hein. Grosse, où là, tu prends tarte sur tarte. Là, en ce moment, tu prends tarte sur tarte. Mais le problème, c'est que la dernière ligne droite, avant qu'elle arrive, il y a déjà des échéances qui ont sauté.
Mais déjà ce soir.
Les échéances de la Ligue des Champions.
Oui.
Allez, tu la balayes. Les échéances de finir aussi bien que l'année dernière en championnat, je pense que maintenant, tu peux la balayer. Parce que bon, c'est pas grave de dire que l'OM sera pas champion aujourd'hui et que l'OM va avoir de grandes difficultés à finir deuxième du championnat. Donc c'est la réalité. Par contre, ils vont avoir de grandes difficultés à finir sur le podium déjà. Donc ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a un constat d'échec. Et le constat d'échec, ça se traduit encore dans le départ de certains joueurs qui viennent d'arriver. Pourtant, ils sont arrivés il y a 6 mois. Aujourd'hui, on leur a montré la porte de sortie. Alors nous, on nous dit que c'est financièrement, c'est normal, et qu'il y en a 5. Mais moi, c'est ça qui me choque. Il y a 5 joueurs qui viennent d'arriver. Et dans ces 5 joueurs-là, t'as un gamin, Noah Neri, d'accord,
ouais.
Où tout le monde dit ouais, c'est une pépite, mais en fait il a 18 ans le gamin. Ouais. Alors il a bien commencé son premier match, mais lui t'as l'impression que lui maintenant il a la carte de Zerbi. Il jouera tous les matchs et on se démerde. Et puis au milieu de terrain, Timber qui vient d'arriver, maintenant c'est un magicien. Comme Vermeeren il y a 6 mois, c'était un magicien. Mais en fait, il y a
plein de choses qui vont montrer encore aujourd'hui que la stabilité est importante. L'instabilité, c'est voué à l'échec. Et que la je ne souhaite pas à Marseille, mais sans déconner, le match de ce soir, s'il n'est pas crucial, s'ils se font sortir contre Rennes, c'est terrible la pression sur les joueurs et sur le club. Mais s'ils se font sortir contre Rennes, mais qu'est-ce que tu vas vendre
Restons sur le coach, Jean-Michel. L'importance de ce match pour Roberto De Zerbi et son aventure marseillaise, parce que là, lui aussi, il passe une sacrée étape ce soir.
Oui. Sauf qu'il va te dire que son rôle et sa situation n'est pas importante par rapport au club. Les clichés habituels, les pépites qui viennent d'arriver. Pendant ce temps, on te dit que on se plaint parce qu'il y a de l'instabilité, mais on fait tout pour qu'elle existe.
Pour qu'elle reste bien en place.
Ouais, si tu veux, à un moment ou un autre, moi, je veux bien les discours. Et au risque de vous surprendre, ce match est important pour l'Olympique de Marseille, pour essayer de continuer l'aventure. Aujourd'hui, je ne sais pas si en éliminant une équipe de Rennes qui vient quand même de prendre
une déroute à Monaco,
4-0.
Ouais.
Qui vient d'en prendre une déroute à Monaco, où effectivement ceux qui ont parié ce score-là, ils ont dû quand même gagner beaucoup d'argent parce que j'avais regardé Monaco ces derniers temps. Si tu me dis que Monaco est capable de battre 4-0 une équipe de Ligue 1, cette équipe de Ligue 1, elle doit être bien triste quand même. Parce que Monaco ne nous a pas régalé.
Non, après, ils ont le droit de faire un bon match, hein, de temps en temps.
Rennes, c'est deux défaites de temps en temps. Journée.
Bon, mais on risque de vous dire. Moi, je pense que le souffle de la crise est très présent dans la nuque de tout le monde. Parce que le match prochain, tu vas au parc. Mmh. C'est bien ça, le match de championnat. Pendant ce temps-là, ton adversaire direct pour la troisième marche du podium se déplace à Nantes où jusqu'à présent, tout le monde a à peu près gagné.
Oui.
Et que à l'issue, à une quinzaine de matchs de la fin, tu n'es plus sur le podium de Ligue 1.
Mais là, vous vous projetez alors que le rendez-vous de ce soir est crucial déjà. C'est là où je ne comprends pas votre raisonnement.
Il est crucial. Et moi, je.
Mais sortir d'abord, en coupe dès les huitièmes de finale, ça serait terrible pour l'OM ce soir.
Ils se sont déjà fait sortir par Annecy après avoir sorti le Paris Saint-Germain.
Ouais, mais là, ils n'ont pas le choix. Franchement,
s'ils
se font sortir Jean-Michel ce soir,
mais
tu vas vendre quoi derrière sur les prochains mois? Tu as pris 5 nouveaux joueurs avec un effectif qui est fait pour jouer sur plusieurs tableaux. On est d'accord, plusieurs compétitions. Ah, oui. Tu n'auras plus que le championnat.
Mmh. Ouais, bah justement, tu vois, je vais aller un petit peu à contre-pied, moi, Jérôme. Je me dis, tu vois, je pensais un petit peu, puis ça m'a fait réfléchir, je pensais un peu comme toi là, puis toi, ça m'a fait réfléchir, toi, en début de semaine. Et je me dis, en fait, le socle commun, le socle de trois, là, le trio Longoria, Benassia et De Zerbi, honnêtement, il est quand même ultra puissant parce qu'avec tout ce qu'ils vivent, que ça soit ces derniers temps ou ces dernières semaines, et voire depuis le début de la saison, moi je les trouve quand même assez forts tous les trois. Je les trouve quand même assez unis, ce qui est quand même, et faut leur allouer ça, c'est que c'est très rare dans un club et c'est très rare surtout à l'OM. Moi je reviens au projet d'il y a un an et demi. C'est le projet de 3 ans. C'est pour ça qu'en finale, avec les déconvenus qu'ils ont.
Non, pas ça,
c'était encore avant. Mais tu vois, moi je trouve qu'au final, le projet reste quand même très cohérent dans la direction et la direction technique, administrative et technique. Ils sont en train de construire un club.
Cohérent, toi. Et finalement,
Jean-Michel, tu vois, nous on se tarde quand même toutes les semaines à dire que les clubs, c'est la valse des entraîneurs.
Là, c'est la valse des joueurs.
Ça, c'est encore autre chose. Jean-Michel, ça, c'est encore autre chose, la valse des joueurs. Ils sont en train de créer.
Le contraire.
Qui te dit ça?
Mais eux, me semble que De Zerbi, c'est plein de l'instabilité.
Mais pas de la direction. De l'instabilité des joueurs. Ils sont en train de créer quelque chose. Ils sont en train de trouver la bonne recette. Ils sont en train de trouver la bonne recette pour que. Et moi, je dirais que ce soir, au final, bon, cette année, le seul objectif pour moi primordial, là, à partir de maintenant, c'est la qualification obligatoire pour la Ligue des Champions l'année prochaine et pas le tour préliminaire.
Que le match de ce soir n'est pas.
Je suis d'accord avec toi là-dessus.
Je pense que.
Par contre, je me dis qu'au final, ils sont en train de créer à l'OM. J'en étais pas sûr.
En Ligue des Champions, c'est...
Ah bah là, par contre, c'est catastrophique. Là, je suis d'accord avec toi.
Si tu te fais sortir au Vélodrome dans le contexte actuel, par Rennes, huitième de finale de Coupe de France.
Mais ça y est, il est renforcé. Regarde, il est renforcé avec depuis. Non, mais depuis ces deux derniers quelques jours, il est renforcé. Il n'a pas été viré après la disqualification.
Il n'est pas licencié. Et alors,
donc, mais c'est pas une question. Là, tu te dis, au final, tous les trois.
Tu poses la question à Longoria. Est-ce que vous préférez gagner la Coupe de France ou est-ce que vous préférez être qualifié en Ligue des Champions ?
Non, mais on a
compris. Je connais la réponse.
Mais moi, je t'ai juste, imaginons le contexte à Marseille s'il y a élimination ce soir. Parce que les supporters ont dit on va vous soutenir ce soir.
Mais ça va être le feu, mais comme tout le temps, dans tous les clubs. Dès que t'as une déconvenue, t'as tout ça. C'est quand même le feu. Et puis rien n'empêche qu'au moment. Toi, tout à l'heure, tu disais mais qu'est-ce qu'on va leur vendre jusqu'à la fin de la saison ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va leur vendre jusqu'à la fin de la saison ? Mais qu'est-ce que l'OM vend depuis 4, 5 ans, toutes les saisons ou en cours de saison, à part la qualification en Champions League. Qu'est-ce qu'ils vendent?
Oui, bah,
coupe, qu'est-ce qu'ils vendent à
supporters? Au soir de Bruges, les supporters vont être déçus en te disant qu'il faut aller la chercher.
Non, mais parce que cette année, t'as une opportunité qui est quelque part qui est un peu galvaudée, c'est que le PSG n'est plus dans la boucle. Le PSG n'est plus dans la boucle en Coupe de France. Sauf que tu crois pas que toutes les équipes qui sont à aujourd'hui en 8e, ils se disent pas la même chose que l'OM et comme tous les supporters de l'OM.
Mais l'OM est censé être le mieux placé.
Tu prends Rennes. Tu les prends pour, en fait, on les prend pour des nazes, en fait.
Mais c'est pas
à toi que je pose la question. C'est comme ça. C'est qu'en fait, on a la même idée du match contre Bruges. Mais vous regardez le championnat belge, Bruges, c'est pas des baltringues non plus.
Oui,
par Rennes, je suis désolé, autant de compétences, autant de
Steve, le problème.
N'oublions pas quand même que depuis le début de la saison, cette équipe de l'Olympique de Marseille à domicile n'a pas maîtrisé les matchs contre,
exactement,
à l'exception du match contre le Paris Football Club où il y a eu une différence conséquente. Les matchs de l'OM en championnat contre Toulouse, contre Lyon, contre Nantes, contre Angers.
Par contre, on sait très bien que le public marseillais, comme beaucoup de clubs en France, ils seront indulgents quand même avec le comportement et l'attitude des joueurs.
Mais ils en ont rien à faire. C'est là que Steve, moi,
je suis pas d'accord avec toi. L'avantage du foot, c'est que ça se change tout le temps.
Steve, moi, je vais te dire parce que je l'ai vécu dans les clubs à haute pression, au Paris Saint-Germain, à Marseille, c'est la même chose. C'est des ferveurs particulière, c'est pour ça qu'on dit que c'est les deux plus grands clubs français dans tous les cas, quels que soient les objectifs du début de saison, quelle que soit la construction de l'effectif. Tout ce que tu dis au départ dans ces clubs-là, c'est que quand tu démarres l'année, les gens, ils veulent faire tourner le compteur, ils veulent gagner des trophées. D'accord ? Donc le problème, c'est qu'à Marseille, ça fait X années qu'on dit ça et ils n'y arrivent pas. Que cette année, on nous a vendu, et depuis 2 ans, on nous a vendu, alors après, à tort, parce qu'aujourd'hui c'est à tort, ça se confirme pas, on nous a vendu un cador sur le banc, limite comme Guardiola et Mourinho, d'accord ? De Zerbi, arrivant avec 9 adjoints. Avec une construction d'équipe stable, de l'équipe dirigeante. Pablo Longoria, Mehdi Benatia. Il n'y a pas de problème. J'étais le premier à dire, c'est bien pour l'Olympique de Marseille de donner de la stabilité déjà dans l'équipe dirigeante et beaucoup de garanties à l'entraîneur. Pas de problème, il l'a eu. Depuis un an, la première année, très bien, il était dans les clous, même s'ils n'ont rien gagné. L'objectif, c'était la qualif en Ligue des Champions. Et Jean-Michel, t'as raison. C'était l'objectif pour que financièrement, l'OM s'y retrouve. Mais derrière, quand tu vends autant de mouvements, où tu nous dis, en début d'année, c'est pas moi qui l'ai dit, on a une grande équipe, on a des grands joueurs, on est très content aujourd'hui, avec ce qu'on a apporté comme expérience.
T'as vu les entrées et les sorties financièrement.
Non, mais d'accord.
Ils sont gagnants.
Oui, mais
ils sont gagnants sur un mercato d'hiver.
Je suis d'accord avec toi.
Sauf que quand même, il faut quand même la rallouer ça aussi des fois.
Oui, mais les paroles dans ces clubs-là, c'est important quand tu es des dirigeants et l'entraîneur. Et quand tu ramènes des joueurs avec beaucoup d'expérience qui ont gagné, tu ne peux plus te cacher. Et quand tu dis aujourd'hui, bien sûr qu'ils peuvent perdre contre Rennes, c'est pas prendre Rennes pour des peintres. Rennes, ils sont capables. Et de toute façon, Nantes l'a très bien fait de gagner au Vélodrome dernièrement.
Et il y a des équipes qui l'ont.
Donc Rennes est capable d'éliminer l'OM. Par contre, une défaite de Rennes en Coupe de France, Je dis pas ça va passer inaperçu parce que ils auront aussi des comptes à rendre avec leurs actionnaires, mais il y a moins de pression qu'à Marseille. Évidemment. Marseille aujourd'hui, le problème c'est qu'avec tous les résultats et toutes les déceptions qu'on a depuis 6 mois, ils ont pas le droit à l'erreur. Et pourtant on parle, t'imagines que on parle d'un 8e de finale.
C'est Euzerbi qui a pas le droit à l'erreur parce qu'aujourd'hui, s'il y a une défaite ce soir combiné avec une défaite au Parc des Princes, bah je pense que l'affaire, l'aventure s'arrêtera là pour Deserbi.
Bah c'est sûr.
Et réponse ce soir 21h10, Marseille-Rennes, 8e de finale de la Coupe de France, à suivre sur RMC, l'After Live à partir de 20h. L'autre 8e de finale du jour, c'est Reims-Le Mans, les deux équipes en forme de la Ligue 2 à 20h30, à
et
suivre également sur RMC.
Et attention à l'ambiance du stade ce soir, parce que encore une fois, je te dis, je veux pas comparer ce qui est pas comparable, mais je me souviens de certains matchs au Parc des Princes où les supporters, ils nous disaient oh, on est avec vous, mais vous avez pas le droit de vous rater. Oh là là, moi je dis bon courage pour les joueurs, parce que pour préparer ces matchs-là, c'est vraiment pas simple.
Allez, dans un instant, Roten sans flamme revient, Jérôme Roten, Jean-Michel Larquet, Steve Savidan, et on ouvre le procès du championnat saoudien et de son fonctionnement complètement ridicule. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir. C'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan, avec Benoît Boutron. Dans 15 minutes, le Allo Jérôme avec Rod Fanny.
On
le retrouve, Rod. Je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment.
On est ravis de le retrouver. Ancien Marseillais, ancien Rennais. Il a tout connu à l'OM. Hein. Il a connu les périodes d'euphorie, les titres gagnés, les crises.
C'est vrai.
Les lofts. Il a tout connu, Rod Fanny.
Il a fait quelques années.
Il pourra nous parler de son expérience marseillaise. Mais tout de suite, on a un excellent procès dans Roten sans flamme.
RMC, Roten sans flamme.
La tête de Cristiano ! Pardon, Chris ! Pardon, je t'ai critiqué ! Je suis nul ! Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde ! Sinon, on est un gros con ! Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué !
Le procès de Roten sans flamme.
On embrasse Fred Hermel. Bonjour, c'est Fred, tous les week-ends, hein, samedi matin et dimanche matin. Alors, Cristiano Ronaldo s'est mis en grève en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d'Or qui a boycotté le match de championnat de son club Al Nassr. La raison de sa colère, c'est le transfert gratuit de Karim Benzema à Al Hilal. Al Hilal, c'est le leader du championnat saoudien. Il y a un point d'écart entre les deux clubs après 19 journées de championnat. Précision importante pour que tout le monde comprenne le contexte saoudien. Le PIF, le fonds d'investissement public saoudien, détient 75% des parts des quatre plus gros clubs du pays. Al Hilal, donc, le nouveau club de Benzema. Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Vous pouvez rajouter Al Ahly et Al Ittihad, qui est l'ancien club de Benzema. Ronaldo regrette donc une concurrence déloyale parce que cet hiver, Al Hilal a investi 44 millions d'euros pour recruter, avec notamment l'arrivée donc de Karim Benzema, alors que le club de Ronaldo, Al Nassr, s'est contenté de recruter un milieu de terrain irakien. Il n'y a pas eu d'argent investi par le PIF pour renforcer Al Nassr. On ouvre donc le procès du championnat saoudien ce soir et de ce fonctionnement ridicule avec un procureur, c'est Jean-Michel Larquet. Bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
On a deux avocats du championnat saoudien. Steve Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
Et Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et on a Damien au 32-16 qui va nous rendre le verdict. C'est lui le juge ce soir. Salut Damien.
Salut messieurs, bonsoir. Salut Damien.
Sois le bienvenu. J'espère que tu vas écouter les plaidoiries attentivement. Parole au procureur, monsieur Larquet. Qu'est-ce que vous pensez donc du fonctionnement de ce fameux championnat d'Arabie Saoudite ?
Oh, ça va aller très vite, ça va aller très vite, puisque je vois que dans ce championnat, eh bien, la multipropriété, elle est intranationale, c'est-à-dire que dans un même pays, on peut être le propriétaire de plusieurs clubs. Donc évidemment, l'équité sportive est parfaitement respectée. Il y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que les joueurs, et tant pis pour eux, ils le savaient peut-être pas quand ils ont signé, on leur a peut-être pas dit, on leur a peut-être caché. Mais les joueurs sont considérés comme des objets. C'est-à-dire que, en fonction de l'humeur du propriétaire, bah tiens, tu étais à droite, mais finalement, ça me fait envie que tu ailles à gauche, donc tu vas y aller, on va pas te demander ton avis. Et pendant ce temps-là, j'entends des cris d'orfraie de Cristiano Ronaldo, qui est, je ne sais pas s'il est dans les quatre qui sont dans la même multipropriété.
Si, bien sûr. Bien sûr.
Bon, et, bon. Et donc, à un moment ou un autre.
C'est pour ça qu'il est énervé, d'ailleurs.
Oui, à un moment ou un autre, quand les joueurs, aujourd'hui, ils ne font pas de cadeaux, je ne veux pas dire ça, mais les joueurs sont pris pour. Je vais être vulgaire, ils sont pris pour du bétail, et bien ils vont à droite et à gauche au gré des humeurs des dirigeants, ça me choque. Excusez-moi, je pensais que la dignité humaine était un petit peu plus présente chez ces joueurs-là, et qu'ils auraient dû s'apercevoir qu'ils n'étaient que des têtes de gondole qu'on promenait dans le magasin au gré des humeurs des uns et des autres. Voilà. Ça me choque. Ça me choque que les joueurs soient véritablement pris pour des boîtes de conserve. Vraiment.
Parole à la défense, Maître Roten.
Oh bah non, mais moi les bras m'en tombent quand j'entends que Monsieur Larquet nous explique que les joueurs sont pris pour des boîtes de conserve. Mais en Europe, c'est quoi en fait? Parce que on sait tous aussi dans le football européen. Alors c'est pas la même formule, hein, c'est pas la même chose, chaque continent, si tu veux, a le droit de mettre certaines règles en place, et ça leur appartient. Et c'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas en foot US. Le foot aux États-Unis,
MLS, ouais.
Non, que ça soit la MLS, que ça soit le basket,
la NFL,
que
ça
soit,
tout ça, voilà, la NBA.
Ils ont une façon de gérer leur club qui est complètement différent à ce que nous on vit en Europe. Et pour autant, on n'est pas là, à leur donner des leçons.
J'ai le droit de non. pas aimer quand même.
Non, oui, mais je te dis pas que t'as pas le droit. Mais par contre, tu peux pas dire que les joueurs sont utilisés, c'est du bétail. C'est la même chose en Europe. Du moins, la valeur marchande d'un joueur. Moi, j'ai l'impression que quand je jouais et qu'on appartenait et que j'appartenais à un club, j'avais une valeur marchande. C'était du bétail. S'ils avaient envie de te vendre parce que besoin d'argent, ça a été le cas quand j'étais à Monaco, par exemple, eh ben ils m'ont vendu. Ça a été le cas quand j'étais plus jeune. C'est la même chose. Et pour autant, bah, même si t'as ton mot à dire pour savoir où tu vas, est-ce qu'il y a le cas des joueurs en Arabie Saoudite? Attention, hein, Karim Benzema, il a jamais dit « Oh non, je veux pas aller là. Ah bah si, tu vas aller là. » Là, oui. C'est différent. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc après que... En effet, il y a un propriétaire pour les quatre plus grands clubs. Il n'y a pas de problème. C'est leur façon de gérer.
Il n'y a pas de problème.
Non, c'est leur façon de gérer.
Jean-Michel, il n'y a pas de problème. Alors,
Jean-Michel, c'est leur façon. C'est leur façon de gérer. Non, mais c'est leur façon de gérer le championnat. Moi, je vais pas leur donner des leçons. Ce que je regarde juste, c'est
est-ce que gérer les quatre plus puissants clubs, ça. Il y a une Jean-Michel, équité sportive.
Jean-Michel, les quatre plus grands clubs, c'est la même chose en France. On retrouve toujours les mêmes, plus ou moins.
Ils n'appartiennent pas à la même personne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que leur mode de fonctionnement leur donne raison aussi dans la progression de ce championnat. Moi, j'ai l'impression quand même que on a dit beaucoup de choses négatives sur l'Arabie Saoudite.
Je vous disais que je suivais le championnat.
Moi, je dis juste que aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, où là, ils investissent aussi maintenant sur des jeunes talents. Avant, c'était que des anciens, comme la Chine l'a fait. Là, si tu veux, ils se développent vraiment différemment à une vitesse grand V. Le championnat progresse. Je trouve que tu prends les quatre meilleures équipes, vous venez de le citer. Quand tu regardes les effectifs et les équipes types, franchement, c'est impressionnant.
Ah oui.
Alors, écoute, ouais, moi, je te dis que juste que Al Nasser, qui est l'équipe de Ronaldo, aujourd'hui, il se plaint. Mais vous avez vu l'équipe d'Al Nasser? Non, mais franchement, tu prends l'équipe type d'Al Nasser, tu te dis, bah franchement, écoute, je sais pas s'il a l'équité sportive ou quoi que ce soit, sportive.
Il y a Mané, João Félix et Kingsley Coman, par exemple.
Attends,
et Mohamed Simakan défense centrale.
Et puis tu rajoutes Ronaldo et tu rajoutes un gardien brésilien qui est le troisième ou quatrième gardien de la sélection.
Nico Martinez, l'ancien du Barça.
Non, mais franchement, et tu peux prendre Al Hilal, c'est la même chose. Non, moi je dis juste que dans le
débat. On n'est pas parti sur le même raisonnement.
Jean-Michel.
Je te l'ai dit, je les ai suivis les matchs quand il était retransmis. Depuis quelque temps, j'arrivais plus à aller voir les matchs. Je ne sais pas pour quelle raison.
Parce qu'il n'y a plus de diffuseur, et... Jean-Michel. C'est pour regarder sur Twitch, désormais, donc, sur les réseaux sociaux.
C'est une bonne raison. Mais le mode de fonctionnement m'interpelle.
Oui, il t'interpelle. Mais parce que
c'est ce que je veux te dire.
Non, voilà, mais il peut nous interpeller. Maintenant, moi, je dis juste que. Pour moi, c'est assez équilibré. Et la preuve, hein, c'est que quand tu regardes le championnat aujourd'hui, c'est très serré avec les équipes de tête. Et il y a un point d'écart entre Al Hilal et Al Nasser. Donc, et les autres sont à 3 ou 4 points.
Et le club
donc,
de Ronaldo.
Il y a de l'attractivité, il y a du suspense. Et je pense que c'est ce qu'ils voulaient. Et le niveau a augmenté. Donc, ouais, pour l'instant, moi, j'ai rien à dire.
Pif le chien.
Bah, tout simplement, l'accusation se trompe de siècle. On essaye de juger le football. De demain, avec les principes d'aujourd'hui.
C'était des cons avant, oui, c'est vrai.
J'ai pas dit ça. On taxe ce championnat de ridicule. Regardez la NBA, c'est le modèle le plus rentable de la planète. Regardez la MLS, gestion centralisée pour garantir la survie du système. Regardez le salary cap dans le rugby. Ça bâtit une élite mondiale. Moi, honnêtement, je plaide l'acquittement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on condamne pas un empire parce qu'il a un siècle d'avance sur nos dettes du football européen. Voilà, moi j'ai fini.
Tu penses que c'est le modèle qui marche et qu'il
c'est
faut s'adapter
de demain. C'est le modèle de demain.
Nouvelle façon.
Il centralise toutes les meilleures idées qui sont faites dans les sports collectifs. Faut pas rappeler qu'on n'est pas là pour les juger. Bien sûr qu'on a des peut-être, et je suis un peu d'accord avec Jean-Michel, sur certains droits, d'accord, mais ils sont souverains chez eux. Nous, on a été souverains. Je rappelle que le football français, européen, a essayé d'être souverain sur un football mondial, a donné des leçons à tout le monde. Mais sauf qu'on est en dette comme c'est pas possible. On a fait une course en avant.
Les joueurs.
On a fait.
Les joueurs.
Mais Jean-Michel, on a fait une course en avant. Oui, mais Jean-Michel, entre ton système à toi, le système qu'on a connu 90-2000 et le système d'aujourd'hui.
Mais tu l'as pas connu. Le vieux système qui faisait que les clubs étaient propriétaires des joueurs jusqu'à 35 ans et qui faisaient ce qu'ils voulaient avec les clubs.
Et après, il y avait l'arrêt Bosman, donc il y a eu des évolutions.
Moi, je l'ai connu.
Je me suis battu pour qu'existe le contrat, mais je peux éventuellement être interpellé par ce qui se passe là avec ces multiples propriétaires. Ça m'intéresse.
C'est pas grave si je dois vivre un siècle de plus. C'est pas grave.
Ah ouais, on veut que tu restes, bien sûr. On a besoin de toi dans Rotten sans flamme. Le verdict de Damien au 32-16, alors, est-ce que tu condamnes le foot saoudien?
Oui, je condamne le foot saoudien. C'est n'importe quoi. Regardez, vous dites que c'est très beau, c'est magnifique, mais le niveau des clubs saoudiens, il n'est pas ouf. Faut pas croire. Les joueurs en question, ils ont 40 ans, ils continuent à jouer au foot. Mais il y a 20 ans, ils pourraient plus jouer au foot parce que les jeunes, ils les poussaient dehors. C'est aujourd'hui le niveau des jeunes qui est catastrophique. Sauf que les saoudiens, ils mettent beaucoup d'argent. Avoir 4 clubs et qui sont les 4 plus grands dans un championnat, c'est n'importe quoi. Ils décident eux-mêmes qui gagne le championnat. Ça n'a aucun intérêt. La preuve, c'est qu'il y a un désamour des spectateurs. Canal+ avait acheté les droits. Il n'y a eu que 4000 spectateurs par week-end. Ils ont tout de suite revendu.
Ah, mais ça, c'est sûr.
Et donc, c'est la preuve.
Mais ça n'a rien à voir.
Il a le droit de progresser.
C'est pas forcément la cible, nous. Hein.
On n'est pas la cible, nous. Hein.
Non,
je te rappelle qu'ils sont sur le continent asiatique. Ils sont sur le continent asiatique. Ils sont sur le continent africain. Moi, j'aimerais bien voir les chiffres.
Parce que quand tu fais des stars internationales, c'est pour que tout le monde regarde. C'est pas.
Non, mais il n'y a pas d'intérêt quand ils ont la main mise sur qui gagne le championnat, ils ont les 4 plus gros clubs du championnat entre leurs mains.
Tu t'es posé la question entre 800 millions d'euros sur le budget du PSG.
Arrête de parler, ils ont des conseils quand même. Ben c'est pas possible.
Mais Jean-Michel, faut pas non plus évincer le problème ou le sujet. L'argent, bien sûr, c'est le cœur du réacteur. C'est qui les derniers champions de France? Allez, il y en a trois. Mais dans les trois, combien de fois le PSG? Mais forcément qu'il y a une valeur par rapport à l'argent. Tu vas en Angleterre, c'est pareil. En Allemagne, en Espagne, c'est pareil. Et dans le championnat européen, il y a quoi? Il y a 6 équipes qui se battent pour gagner la Coupe d'Europe.
Mais là, ils se battent pas, puisque c'est eux qui décident qui gagne. Il n'y a même pas de compétition.
Steve, le procès qu'on est en train de faire, sur le championnat saoudien, je me gratte pas pour de temps en temps égratigner Monsieur Seferine et l'autre, comment il s'appelle,
Monsieur Infantino, ton ami.
Et Monsieur Infantino.
Damien.
Bien sûr,
Damien.
Je vais pas passer des vacances avec eux, hein,
Damien,
je te le dis.
Damien, moi j'ai été critique sur le niveau de l'Arabie Saoudite, mais je trouve qu'il progresse.
Et force est de constater que ça progresse.
Et pourquoi je te dis ça, c'est qu'on a eu la Coupe du Monde des clubs au mois de juin-juillet, et il y avait Al Hilal, d'accord. Donc Al Hilal, t'as suivi un peu la Coupe du Monde des clubs?
Damien.
Oui, j'ai suivi.
Al Hilal, ils ont été invaincus sur la phase de poule. Ils ont fait match nul contre le Real Madrid. D'accord. Ils sont sortis. Ils ont sorti en prolongation Manchester City.
Ouais.
D'accord.
Oui.
Et ils perdent donc contre Fluminense.
2-1.
Donc, moi, je trouve en effet qu'ils ont donné une bonne image et surtout on pouvait comparer par rapport à d'autres équipes, par exemple la MLS.
Oui.
On a vu que c'était ridicule le niveau de la MLS à travers les équipes de MLS.
Tu as vanté le système MLS tout à l'heure dans ta plaidoirie.
Au contraire, j'ai dit qu'ils avaient leur système. Ils avaient leur système que moi je suis pas là pour les critiquer, je vais pas leur donner des leçons. Écoute, c'est un système. Par contre, que les Américains ils n'essayent pas de venir en Europe nous mettre en avant.
Jérôme, là où il faut se poser la question, c'est pas tellement qu'il faut imiter ce système. La question qu'il faut se poser, c'est comment contrecarrer notre système qui est aujourd'hui. Il y a tellement de différences entre les clubs qui ont énormément de finances et surtout ceux qui sont en défaillance financière. Est-ce que c'est normal que le Real Madrid, Barça, ils aient un chrome de je sais plus combien, 500 millions dès qu'ils commencent en DNCG? Et puis que ça reparte et qu'ils puissent retirer. Et nous, en France, on arrive, on a une DNCG qui est loyale, il n'y a pas de souci, qu'ils ne puissent pas retirer. Non, mais à un moment donné, quelqu'un va taper son poing sur la table et de se dire notre système ne fonctionne pas, mais les autres, ils sont tellement teubés qu'ils vont faire comme nous. Ben non, ils essayent d'inventer. Bon. Ils n'ont pas forcément raison, surtout. Mais on ne peut pas leur reprocher d'essayer une formule.
Et victoire de Jean-Michel Larquet à plat de couture. Ouais. Voilà, ouais. Damien a rendu son verdict. Bravo, et dans un instant, on reparle de Marseille-Rennes ce soir, 8e de finale de la Coupe de France avec Rod Fanny qui sera avec nous. À tout de suite.
Roten sans flamme. Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec le Allo Jérôme et Rod Fanny qui est en coulisses là. Ah, il a envie de parler, il a envie de nous dire ce qu'il ressent de l'Olympique de Marseille et puis surtout nous apporter son expérience. Mmh. On est avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Et après 19h, Benoît.
Safonov Chevalier, est-ce que la concurrence est terminée? Supporter parisien, on vous attend au 32-16. Mais tout de suite, donc Rod Fanny nous attend.
RMC, Roten sans flamme.
Vers le point de pénalty vers Fanny. La tête de Rod Fanny, c'est au fond. L'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. 1-0, c'est signé Rod Fanny.
Il est là l'ancien Fabien, il est là.
Allô Jérôme.
6 saisons passées à l'Olympique de Marseille, 4 au Stade Rennais. Rod Fanny est donc notre invité dans Roten sans flamme, Jérôme.
Salut Rod.
Salut tout le monde.
Salut Rod.
Bienvenue, ça va?
Salut Rod.
Ouais, ça va, impeccable. Merci, et vous?
Bon, écoute, nous, on est en pleine forme. Tu sais, on parle de foot tous les jours, donc tout va bien. On est des grands passionnés.
Il y a pire.
Ouais, exactement. Bon, alors, tu dois souffrir en ce moment avec l'Olympique de Marseille, j'imagine. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus?
Je sais pas si le mot est suffisant. Souffrir, c'est de la torture. C'est vraiment de la torture, ce qu'on vit en ce moment. En tout cas, pour les passionnés comme moi du club. Et c'est vrai que ça chauffe pas mal dans le sud aussi. Et notamment, je sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui, vous savez un peu tout. Il y a eu pas mal de réunions, notamment au sein du club avec les supporters et autres. Donc c'est vrai que ça chauffe pas mal.
T'as connu ces situations-là, Rod? Toi, t'as eu des belles heures à Marseille. T'as connu des titres au début des années 2010-2011. T'es resté 5 ans. T'as connu des moments beaucoup plus chauds aussi. Dans ces moments-là, un match comme ce soir pour l'OM, on dit que les supporters sont derrière le club, mais on sent bien qu'à la moindre étincelle, ça peut chauffer. Comment on prépare ce type de match quand on est joueur de l'OM?
Ben moi personnellement, c'est difficile à préparer. Moi personnellement, il fallait couper les réseaux sociaux déjà, parce ouais. que c'est surtout à ne pas faire les réseaux sociaux, éviter de voilà de traîner un petit peu trop dans la ville, à droite à gauche, dans les restos et quoi entre guillemets de détente ou d'amusement, parce que c'est très vite pris presque comme une insulte. Ils sont très très voilà à Marseille, ils sont tous très très passionnés et voilà de nous voir pas forcément concentrés ou penser que au match dans des situations comme ça tout de suite et c'est très très mal perçu donc voilà il faut se mettre dans une coquille. Pour moi c'était un peu ma formule, je mettais dans une coquille, je me concentrais, j'évitais les réseaux parce que voilà ça va dans tous les sens, ça peut être des insultes, ça peut être tout un tas de choses aussi. Donc c'est vrai que c'est un contexte vraiment pas évident. Mais il y a que comme ça, voilà, qu'il faut se, voilà, il faut se reconcentrer vraiment dans ce qu'on sait faire à la base, c'est du football, et surtout pas s'éparpiller parce que pour un rien, ben, on a vu beaucoup de joueurs à Marseille, voilà, perdre pied. Et là, c'est exactement ce genre de situation qui fait que on peut perdre quelques joueurs déjà sur la route dans ce genre de tournant. À ce moment-là de la saison, parce que là, de ce que j'ai compris, c'est un peu le match, un petit peu de la dernière chance. Parce que y a cette coupe là peut-être à aller chercher contre Rennes et pour tout le reste voilà il y a les espoirs sont tellement voilà ils sont foutus, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de tension et des discussions aussi autour de voilà, de l'avenir de l'entraîneur, de certains joueurs aussi, il y a déjà certains joueurs qui sont déjà mis sur la liste des transferts sans citer de nom indirectement et donc on sent que c'est vraiment un tournant important si il foire ce match là je pense que entre ce qui s'est passé contre le PSG et tout ce qui s'est passé au cours de la saison, c'est vrai que c'est très 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 dur à encaisser parce que c'est à chaque fois on fait croire que ça va le faire et derrière ça tout est démoli en une fraction de seconde donc ça commence à être difficile pour les supporters vraiment.
Rod, tu parlais de te recroqueviller lorsque tu préparais un match et que la situation était un petit peu complexe. Moi, je suis quand même très surpris, c'est Jean-Michel Larquet là.
On te reconnaît, Jean-Michel.
Je suis un petit peu surpris quand même que dans cette réunion où il y avait les représentants, j'ai entendu dire, alors mon information est peut-être pas très bonne, mais qu'il y avait la majorité des joueurs. Tu penses que à quelques heures, à quelques jours d'un match capital, c'est bien d'aller se disperser dans ces réunions-là et qu'il n'aurait pas suffi d'un ou deux représentants pour...
Il les a cités, Flo, tout à l'heure. Balerdi, Kondogbia, Wea étaient là notamment. Bon,
Ils ont pris la parole. Ouais. Il a bien dit qu'ils ont pris la parole. Mmh. Mais apparemment, tous les joueurs étaient là. Je trouve que c'est quand même peut-être pas tout à fait leur place. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est très délicat. C'est pour ça que je parle toujours de Marseille comme un match, comme une équipe particulière, parce qu'il se passe des choses, comme tout le monde le sait, comme pas dans d'autres clubs, voilà, en France. Et je pense que tous les joueurs, quand on signe à Marseille, moi le premier, quand j'ai signé là-bas, je savais très bien dans quel contexte j'allais, dans quel, voilà, il faut être prêt, voilà, à vivre ce genre de choses-là. Pour moi, c'est pas forcément la meilleure des choses, bien sûr que oui, surtout peu de temps après, avant un match, de se retrouver voilà face aux supporters et croyez-moi, je l'ai vécu hein, personnellement, j'ai fait quelques réunions et il y en a certains qui sont beaucoup plus cléments que d'autres et c'est vrai que bon, ça s'est toujours bien passé à la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce besoin à... En fait, je pense que ces réunions-là, elles sont pas forcément pour les joueurs, elles sont peut-être plus pour les supporters qui ont besoin de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent, d'évacuer cette frustration qui vivent et le fait de pouvoir évacuer cette frustration, alors c'est vrai que c'est pas forcément le mieux pour nous en tant que joueurs, mais au final je pense que c'est pas si mal que ça parce que le fait de voilà qu'ils puissent un peu s'exprimer, se sentir écoutés, se sentir importants aux yeux des joueurs du club et de voilà de ressentir un petit peu les joueurs comme ça, eh ben ils se sentent un peu plus considérés et ça leur permet de repartir le week-end et de redonner 200% voilà entre guillemets dans le support et dans les tribunes, et de pouvoir voilà, vraiment être à 100%. C'est pour ça que je ne vois pas forcément ça d'un bon œil, mais il semble quelque chose d'important par la suite, parce que à retourner au stade avec 60 000 personnes qui vous sifflent ou qui vous huent ou qui vous insultent ou qui font du silence, parce qu'on a vécu aussi, hein, on a vécu des matchs où il y a eu beaucoup de silence.
C'est vrai, ouais.
Et on entendait le bruit des chèvres, ouais. Les bruits d'animaux.
Surtout quand nous, au PSG, on venait se déplacer à cette époque-là.
Voilà, donc c'est pour ça que il y a du mal et il y a du bien, mais à un moment donné, voilà, quand on signe à Marseille, il faut savoir aussi affronter aussi, les bons moments, les mauvais, et comme on dit, voilà, être un homme, comme disait Salanès dernièrement. Mais faut, voilà, faut assumer et il faut faire le maximum derrière.
Rod Fanny en direct dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Ouais, Rod, tu parlais des joueurs. Alors forcément, hein, pas facile hein, de les préparer, ces matchs-là. Mais même au sein de l'effectif, toi, t'as connu aussi une mise à l'écart. Un espèce de loft, là, ce qu'on appelle les lofts, et c'est jamais simple pour rebondir. Bon, toi, t'as réussi quand même à sortir la tête de l'eau, t'avais réintégré l'équipe. Mais là, t'as vu, je sais pas si t'as suivi ce qui est arrivé à Murillo qui jouait, et puis d'un seul coup, on l'a écarté parce que il se donne pas assez, parce que ceci, cela. Bon, alors que ça posait pas problème il y a quelques matchs, donc c'est difficilement compréhensible ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en penses, à toi, de cette mise à l'écart de Murillo?
Moi, j'ai jamais aimé les mises à l'écart, quoi qu'il en soit. Moi, c'était un peu plus délicat. Moi, c'était plus des problèmes contractuels parce que c'est vrai que sportivement, moi, ça se passait très, très bien. Maintenant, c'était des histoires de contrat. Malheureusement, le foot, on l'oublie souvent, mais c'est du business. Donc, quand on n'est pas toujours d'accord, ben, des fois, il y a des moyens un petit peu, vicieux pour essayer d'obtenir ce qu'on veut. Donc, c'était un peu mon cas. Pour Murillo, c'est vrai que c'est dommage parce que, voilà, de ce que j'ai comme écho, c'est pas forcément quelqu'un de nuisible ou de mauvais. Après, être mis à l'écart, je sais pas ce qu'il y a en interne, donc c'est dur de donner un jugement juste. Mais c'est sûr qu'on préfère toujours, quand on trouve des solutions, plutôt que des mises à l'écart et des choses un petit peu médiatisées comme ça, parce que ça nuit aussi bien aux joueurs qu'au club. Parce qu'à la finale, quand des joueurs voient ça, j'ai connu des joueurs qui n'ont pas voulu signer à Marseille, parce que ben justement pour tout ça, alors que ce soit pour les supporters, que ce soit aussi parce que ils ont l'impression que des fois le club est un petit peu entre guillemets véreux ou autre, où il y a des pressions malsaines. Et donc je pense que pour l'un comme pour l'autre, c'est pas la meilleure des solutions.
Merci Rod d'être venu dans Rotten sans flamme.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Merci Rod.
Bon match ce soir. Hein.
Entretiens-toi. Ouais,
merci beaucoup. Ouais.
T'es pour l'OM ce soir du coup Rod.
Oh, j'hésite.
Bon, moi, tu seras pas déçu.
Je suis mordu.
Tu seras pas déçu.
Et bleu et bleu.
Ah, il est bon.
Et blanc et bleu.
Bon. Il est bon, Rod. Bon. Merci, Rod. À bientôt.
Salut, Rod. À bientôt.
Salut.
Bye. Et dans un instant, Rotten se chauffe. On parle donc du Paris Saint-Germain, de cette concurrence entre Safonov et Chevalier. Est-ce qu'elle est terminée? 32-16 pour participer au débat. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.